Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, ravi de vous retrouver. J-2 avant le deuxième tour des élections départementales en France. Un scrutin dont la campagne et le traitement médiatique ont beaucoup tourné autour du Front National. Et pour cause, les listes d'extrême droite ont recueilli plus de 25% des voix dimanche dernier. Une tendance de fond qui se confirme à chaque scrutin depuis des années maintenant. Une tendance qui a fait monter au créneau le Premier ministre français. Manuel Valls a dit son angoisse que la France se fracasse contre le FN avant de dénoncer un endormissement des intellectuels face à cette montée en puissance frontiste.
Le Front National est en passe de devenir le premier parti de France. Pas cette fois à des élections européennes, mais là, à des élections départementales. Il y a presque une forme d'endormissement généralisé.
Alors, face à la montée du Front National, les intellectuels français ont-ils pris leurs responsabilités? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités, dont deux en studio. D'abord vous, Corinne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Yvon Quignot, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, ancien professeur de classe préparatoire, auteur d'une récente tribune que nous avons remarquée à RFI dans Mediapart, intitulée « Vous vous trompez, Manuel Valls ». Il va donc y avoir contradiction. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Critique de la religion, une imposture morale, intellectuelle et politique » aux éditions La Ville brûle. C'est paru cette année. Et puis par téléphone, troisième invité, Bernard Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes vous aussi philosophe, fondateur et président de l'association Ars Industrialis, auteur aussi d'un ouvrage très remarqué il y a quelques années, Pharmacologie du Front National. C'est paru chez Flammarion en 2013. Alors je voudrais commencer avec vous, Corinne Narasiguin, puisqu'on l'a entendu, Manuel Valls s'est lancé dans une lutte ouverte contre le Front National ces dernières semaines. Il en a fait un argument de campagne, utilisant donc des mots forts, j'ai peur du FN. Il est même allé jusqu'à demander où était passer les intellectuels français face à cette flambée frontiste. Est-ce que vous aussi, vous trouvez les intellectuels absents du combat contre le Front National?
Je crois qu'il faut que je commence par préciser que je suis ici en tant que porte-parole du Parti Socialiste et pas pour parler à la place du Premier ministre.
Qui est socialiste.
Oui, bien sûr, mais il a sa propre parole.
Mais il fait campagne.
Défend, bien sûr.
Pour le Parti Socialiste, il est
bien évident qu'on est face à une montée du Front National qui en fait a commencé il y a de nombreuses années maintenant. Par rapport à un chômage de masse, par rapport au creusement de toutes les inégalités, mais aussi par rapport à beaucoup de questions autour de l'identité française dans la France, l'Europe et le monde d'aujourd'hui. Et par rapport à toutes ces questions-là, c'est bien sûr d'abord la responsabilité des partis politiques d'apporter des solutions. Mais c'est aussi le rôle des intellectuels d'éclairer les Français. Et loin de moi l'idée de nier l'abondance et la qualité du travail des travaux qui existent qui sont faits par les universitaires et les chercheurs, mais je crois qu'aujourd'hui ces travaux des intellectuels sont devenus inaudibles. Peut-être dans le bruit médiatique, on est dans des...
Où sont passés les intellectuels français? Pourquoi ne les entend-on pas?
Je pense que peut-être qu'il y a peut-être une certaine spécialisation des intellectuels et où du coup ça rend effectivement ce travail moins visible.
Donc pour vous, c'est une question on les entend pas assez.
Oui, parce que je pense qu'il y a à la fois l'hyperactivité de l'information continue et puis il y a à la fois les réseaux sociaux où maintenant.
Alors effectivement, on va décliner un petit peu expliquer cette difficulté à les entendre. Yvon Quignot, vous avez été choqué par ces mots utilisés par le Premier ministre.
Oui, totalement, parce que ça relève de l'ignorance de un premier temps, si vous voulez. C'est-à-dire que quand il attaque les intellectuels, je me demande s'il connaît le monde intellectuel, en tout cas le monde intellectuel qui est à la gauche du Parti Socialiste, qui existe avec des revues importantes comme Actuel Marx, comme La Pensée, comme Contre-temps, etc. Il y en a d'autres. Et tous ces gens-là font depuis plusieurs années un travail de critique de la société actuelle qui, s'il était entendu par les politiques, nous éviterait peut-être la menace du Front National. Donc j'ai un peu le sentiment crois que ces gens-là, alors vous me disiez, ils sont illisibles ou ils sont spécialisés. Non, je pense qu'ils sont censurés par les médias globalement. Hein. Et il y a des tas de gens dont on reconnaîtra sur l'importance intellectuelle et politique dans quelques années, dont les journaux, y compris les journaux orientés par le Parti socialiste ou qui sont dans son camp, si vous voulez, comme Le Monde, ces journaux ne parlent pas littéralement de ce travail-là qui se fait souterrainement, alors même que cette année, je vous le signale quand même, vous devez le savoir, Marx a été enfin présenté à l'écrit de l'agrégation de philosophie pour la première fois dans l'histoire de l'université française, vous voyez. Donc il commence à émerger, et donc si Valls était un petit peu intellectuellement curieux, il saurait qu'il y a ce travail-là, c'est le premier point. Deuxièmement, la lutte qu'il nous demande de mener, c'est une lutte qui est essentiellement fondée sur le sentimentalisme, l'indignation, hein, l'appel à des grands sentiments. Moi, ça me fait un peu penser, si vous voulez, à la manière dont SOS Racisme disait...
C'est vrai qu'on est en campagne électorale.
Oui, elle touche pas à mon pote. Hein, bon, moi, je pense que c'est pas le bon angle d'attaque, si vous voulez. Hein. Pour la raison suivante, c'est que les gens qu'il faut détacher du Front National n'adhèrent pas aux idées du Front National, en réalité. Hein. Ce sont simplement des gens, si vous voulez, qui sont en déshérence sociale. C'est une partie du sous-prolétariat, la partie la plus exploitée, la classe ouvrière. Ce sont les campagnes qui sont en déshérence, si vous voulez. Hein. Et leur protestation a d'abord une signification sociale. Donc, du coup, si vous voulez, le véritable combat qu'il faut mener, vous voyez, c'est pas un combat contre des idées qu'ils ne partagent pas. C'est un combat d'abord contre l'imposture qu'il y a de la part de Marine Le Pen à recourir...
C'est une question d'offre politique.
Oui, il y a une offre politique. Oui, non, mais il y a surtout le fait que Marine Le Pen utilise un vocabulaire de gauche pour présenter sa politique, hein, qu'elle emprunte au front de gauche. Et dernièrement, il y a un combat essentiellement social à mener contre les causes de la montée du Front National. Et la première cause de cette montée, c'est pas le silence des intellectuels, hein, c'est plutôt la carence de la politique actuelle du gouvernement.
Alors, je voudrais qu'on aille petit à petit, et surtout qu'on donne la parole à Bernard Stiegler, qui est donc avec nous par téléphone. Je le disais, hein, vous êtes l'auteur d'un ouvrage très remarqué il y a quelques années, Pharmacologie du Front National. Vous alertez d'ailleurs depuis plusieurs années sur la montée du Front National. Comment est-ce que vous avez perçu ces mots du Premier ministre? Vous vous êtes senti visé, oublié peut-être?
Bon, à la fois sidéré, stupéfait et en même temps pas du tout surpris parce que précisément, ce que j'essaie de décrire notamment dans ce livre-là, c'est une destruction complète de l'appareil intellectuel de la gauche et des partis. Alors moi d'abord, quand M. Valls... Enfin,
d'une certaine gauche.
Laissez-moi expliquer, s'il vous plaît. Vous pratiquez comme les politiques à la radio, mais pas moi. Vous voyez, moi je parle tranquillement.
Allez-y, vous avez la parole, allez-y.
Monsieur Valls m'a... Ce qui m'étonne déjà quand il dit les intellectuels, mais je suis étonné que lui ne soit pas un intellectuel. Comment est-ce qu'on peut être à la tête d'un pays sans être un intellectuel? C'est quelque chose de stupéfiant. Alors évidemment, je connais le fait que depuis Zola, etc., on parle du rôle des intellectuels publics en France. Etc. Mais enfin, le problème, il est fondamentalement là. Et tout à l'heure, la porte-parole du Parti Socialiste parlait de l'illisibilité des intellectuels, mais c'est parce que les partis ne font pas leur travail, tout simplement. C'est un scandale, la manière dont fonctionne le Parti Socialiste et la plupart des partis politiques.
Alors, qu'est-ce que vous lui reprochez de ne pas entendre certaines paroles?
Ce sont des machines à promouvoir des ambitions personnelles. Tout le monde le vit comme ça, pas seulement au Front National, y compris au sein du Parti Socialiste. J'ai beaucoup d'amis au sein du Parti Socialiste qui le vivent comme ça et qui en sont très malheureux. Donc, il faudrait commencer par voir un petit peu ce qui ne fonctionne pas dans l'appareil intellectuel, par exemple, du Parti Socialiste.
Alors, Corinne Arasigan, je voudrais vous faire réagir. Comment vous répondez à ces intellectuels? Il y a eu énormément de tribunes, hein, oui, qui sont parues en réaction.
Oui, j'ai vu ça.
On peut aussi citer celle de Maryse Souchard, par exemple, qui cite un ouvrage de 97 qui se termine par « Il faut prendre au sérieux le danger que représente Jean-Marie Le Pen ». Qu'est-ce que vous leur dites à ces intellectuels?
Je crois qu'il y a...
On aimerait vous entendre?
Je crois qu'il y a, effectivement, je reconnais une prise de conscience au sein du Parti Socialiste du fait que le travail de fond, le travail de réflexion a souffert d'un manque de dialogue suffisant avec les intellectuels, avec les chercheurs, avec les universitaires depuis plusieurs années. Et c'est pour cela que la direction du Parti Socialiste a proposé au Conseil National du mois de décembre de revoir en profondeur le fonctionnement du Parti Socialiste et notamment d'établir des forums thématiques permanents qui vont nous permettre d'avoir ce travail quotidien et au long cours avec des universitaires, avec des chercheurs et à tous les niveaux du Parti Socialiste, des militants jusqu'aux dirigeants. Donc on est en train aujourd'hui de travailler sur...
Donc on
reconnaît qu'on a du travail à faire là-dessus et c'est pour ça qu'on travaille aujourd'hui sur le déploiement de nouvelles méthodes de travail et de nouveaux outils.
Mieux remonter des études.
Moi je suis d'accord avec un constat qu'a fait Stigler, à savoir qu'il y a véritablement un déficit de pensée intellectuelle au Parti Socialiste et au plus haut niveau. C'est pas moi qui l'ai dit d'ailleurs dans la dernière période, c'est Edgar Morin qui signalait que nos dirigeants politiques actuels étaient dépourvus d'une vision du monde, d'une vision de la société, si vous voulez. Et ce sont des gens qui ont été formés dans des écoles comme HEC, comme l'ENA, si vous voulez, dans des grandes écoles, comme Sciences Po aussi, et ce sont des gens qui ont été formatés à un certain point de vue sur la politique qui fait abstraction des rapports sociaux, des inégalités, de la pauvreté, etc. Et donc, ils ont intériorisé, vous voyez, une vision du monde qui exclut les problèmes qui, précisément, sont à la source de la montée du Front National. Et je termine par une dernière remarque. Les intellectuels sont donc ailleurs, si vous voulez. Et je répète ce que je dis tout à l'heure, l'important, c'est de prendre à bras le corps la question sociale, si vous voulez. Et pas simplement la question sociétale. La question sociale est de s'apercevoir que le vote Front National, c'est essentiellement un vote de désespérance. C'est un vote, si vous voulez, de désespoir, c'est un vote de protestation. Et il ne véhicule pas en tant que tel, un message de droite. Vous voyez, parce que quand vous voyez le vocabulaire qu'emploie Marine Le Pen, c'est la restauration, je termine, c'est la restauration du rôle de l'État. C'est la protection des citoyens, c'est le rôle de la puissance publique, des choses comme ça, qui sont le vocabulaire, par exemple, du Front de Gauche.
Bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas occulter non plus le fait que le Front National reste un parti d'extrême droite, et donc il y a pas que la question sociale est absolument centrale, mais qu'elle n'est pas suffisante, qu'il y a d'autres aspects, notamment sur les questions identitaires. Qu'il faut absolument aborder, parce que résorber le chômage demain ne suffira pas.
La question de la laïcité, c'est une des questions, vous voyez, que la gauche a abandonné et que on a réussi cette extraordinaire prouesse de faire en sorte que ce soit Marine Le Pen qui paraisse incarner aujourd'hui la défense de la laïcité en France.
Pour certains. On va donner la parole à Bernard Stigler qui va réagir.
Merci. Merci beaucoup. Vous aviez la gentillesse de signaler un livre que j'ai publié il y a 2 ou 3 ans, au début du quinquennat de M. Hollande. M. Hollande, dont d'ailleurs un article du journal Mediapart disait qu'il détestait les intellectuels, qu'il ne voulait surtout pas les rencontrer. On avait dit aussi ça de M. Sarkozy. De ce point de vue-là, il semble se ressembler un peu. Quoi qu'il en soit, avant cela, j'avais publié un article dans Télérama, 3 mois avant l'élection de François Hollande, disant avec le groupe Arsène Israelis qu'en 2017, le vrai sujet de 2012, c'était 2017, est-ce que Marine Le Pen sera au pouvoir ou pas, et ça dépendra de l'attitude de François Hollande. Monsieur Hollande, le jour de son élection, a eu un sondage, enfin pas le jour, mais 3 jours avant son élection, un sondage qui montrait que 38% des Français se déclaraient partager les idées Front National, même s'ils ne votaient pas pour lui. Il y a une tendance qui s'est mise en place, qui en fait avait déjà donné des signes semblables, bien avant le Front National, au début du XXe siècle, lorsque Paul Valéry, en 1919, puis Husserl, en 1934, en Allemagne, puis Freud, dans Malaise dans la culture, montraient des signes de décomposition sociale extrêmement graves, et des signes qui donnaient le sentiment aux populations que ce qui avait été perçu comme un progrès auparavant était devenu un processus de régression. Nous vivons exactement la même chose, mais à une échelle beaucoup plus grande. À l'époque, c'était l'Europe occidentale, principalement, et surtout l'Allemagne qui en était frappée. Aujourd'hui, c'est le monde entier. Maintenant, en France, ce processus se développe avec une violence extrême, dans des conditions qu'il faudrait analyser. On n'a évidemment pas le temps, puisqu'il va falloir s'arrêter dans 5 minutes. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui...
Je vous remercie d'avoir un œil sur la pendule.
Je regarde, oui. Le problème fondamental, c'est qu'il n'y a aucune politique dans ce pays, comme il n'y a pas de politique en Europe.
Mais
il n'y a aucune politique
constat...
industrielle. Excusez-moi, juste, je termine. Face à une transformation colossale qui est produite par le numérique, je viens de sortir un livre qui s'appelle « La société automatique », qui annonce des centaines de millions de suppressions d'emplois dans le monde, À Shenzhen, en ce moment, Foxconn annonce la suppression de 3 millions d'emplois par le remplacement par des robots. Ils viennent d'investir 17 milliards de dollars là-dedans. Il y a des études dans le monde entier, à Oxford, au MIT, en France, qui montrent la disparition de l'emploi et personne n'en parle et les gens le savent très bien.
C'est-à-dire que des intellectuels en parlent et on revient au cœur de notre sujet. Comment peuvent-ils mieux se faire entendre?
Oui, non, mais surtout, je suis pas d'accord avec cette idée qu'il n'y a pas de politique en France. Il y a des choix politiques qui sont opérés par le gouvernement français dans le cadre européen. C'est une politique qui consiste à accepter la domination de l'économie sur la politique. Mais c'est quand même une politique. Quand on accepte le traité constitutionnel refusé par les Français, c'est un choix directement politique. Et je voudrais aussi signaler une autre chose qui me paraît moins importante, c'est que derrière tout ce désespoir auquel nous sommes confrontés en termes de situation politique, elle est désespérante cette situation, il y a l'ombre portée de ce qui s'est passé dans les pays de l'Est, au siècle dernier, et l'échec du communisme dit soviétique ou du dit communisme soviétique, si vous voulez. Parce que les socialistes en particulier, moi je ne suis pas du côté du Parti Socialiste, mais les socialistes ont cru que définitivement, le message de Marx, vous voyez, qui avait pour fonction de s'en prendre fondamentalement aux inégalités de classe, c'était un message qui avait échoué. Alors que du coup, il faut revenir à Marx et bien comprendre que ce qui a échoué dans les pays de l'Est, ça n'a rien à voir avec ce que voulait Marx à partir des pays capitalistes développés, qu'il voulait essentiellement, Karl Marx, si vous voulez, mettre en place une société qui était à l'opposé de ce que ça nous a été présenté là-bas. Et du coup, il y a l'idée que aucune autre politique n'est possible.
Je crois qu'on est tous très conscients à la fois des dégâts que cause le creusement des inégalités, de tout type d'inégalités, en fonction des inégalités économiques, sociales, vis-à-vis de l'accès aux services publics, par rapport aux fractures entre les territoires. Mais je reste persuadée que la question de la lutte contre ces inégalités reste au cœur du combat socialiste.
Mais si vous me permettez, la question, c'est comment est-ce qu'on lutte contre le Front National? Ce que viennent de nous dire les deux philosophes, c'est que la réponse, elle est dans un virage politique. Alors que Manuel Valls, lui, est plutôt dans un discours. Alors, est-ce que ça...
Je pense qu'il faut faire les deux, parce qu'il y a la question, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui votent Front National par désespérance, parce qu'ils veulent essayer quelque chose qui n'a pas encore été essayé avant. Et donc, par rapport à ça, il y a besoin de résultats sur le plan économique, et c'est pour ça que la question, notamment, non seulement de la fracture entre les territoires, la question de l'accès aux services publics, la question de la désindustrialisation, on a souffert de désindustrialisation pendant 10 ans, et donc le fait qu'on fasse une politique qui soit axé sur la question de la réindustrialisation, de l'innovation, de reconstruire une économie française productive, c'est très important. Mais aussi, il y a la question, parce que le Front National, ça reste le parti où on voit le plus de candidats prononcer des propos xénophobes, islamophobes, antisémites.
Oui, mais en prononçant ces mots, en parlant d'un voisin, disant qu'il a peur, est-ce que Manuel Valls ne participe pas à la stigmatisation de ses électeurs au lieu de leur dire « je vous écoute, je vous entends, voilà ce que je propose ».
Je crois que c'est pour ça qu'il faut faire les deux à la fois. Il faut à la fois répondre par les propositions politiques concrètes et avoir des politiques qui produisent des résultats. Et il faut à la fois sur des principes, sur des valeurs,
Mais il faut aussi, ça me paraît très important, il faut aussi que passe ce message suivant auprès des citoyens français, c'est qu'une autre politique que celle qui est menée alternativement par la gauche et la droite est fondamentalement possible. Notre politique n'était pas possible, la démocratie n'existerait pas.
Bernard Stiegler, je sens que vous avez envie de nous dire quelque chose.
Oui, je voudrais dire quelque chose à propos de ce que j'appelais tout à l'heure la politique industrielle. Aujourd'hui, il se produit une transformation technologique et industrielle absolument colossale. Tout le monde le voit. Absolument tout est transformé. La médecine est investie par Google, les automates se développent absolument partout, etc. Cette technologie qui vient beaucoup du web, qui a été d'ailleurs développée en Europe, est aujourd'hui passée sous le contrôle totalement des États-Unis. L'Europe n'a absolument aucune vision industrielle, et la France encore moins. Et je pense que le problème est fondamentalement là. Les Français, et notamment ceux qui votent aujourd'hui pour Front National et qui autrefois votaient pour une politique industrielle portée par la gauche, eh bien ces Français-là en sont conscients et ils en souffrent, ils en sont inquiets, malheureusement, légitimement.
Et ils ont l'impression
qu'une vraie politique industrielle soit portée portée par la gauche, mais pas simplement par la gauche, par la France et par l'Europe. Je reviens de Chine, je peux vous dire qu'il y a une politique industrielle en Chine. Je ne dis pas qu'il faut mener une politique comme en Chine, mais la Chine, comme les États-Unis, ont une vraie politique.
Donc, faire des choix politiques, c'est, on l'a bien compris, la réponse que vous deux, Yvon Quignot et Bernard Stiegler, demandez pour lutter mieux contre le Front National. Merci également à notre troisième invité, Corinne Narasiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Vous êtes sur RFI dans un instant, un nouveau journal. Bonne suite de programme.